Salut auditeurs et auditrices fidèles de Radiola, Gérard Daben à l'antenne. Nous avons installé aujourd'hui notre studio nomade à Montboucher-sur-Jabron pour réaliser l'émission La Belle Saisonde de Radiola avec l'association Une Main pour Demain. La devise de la République française est Liberté, Égalité, Fraternité et nous allons parler de fraternité dans cette émission que vous écoutez sur le 106.6 MHz à Djolfi et la web radio radio.media sur le reste de la planète. Fraternité pour le peuple ukrainien dont le pays a été agressé et envahi par les armées russes. Fraternité pour ces familles qui ont fui la guerre et les atrocités commises sur les populations civiles par les envahisseurs russes. Fraternité de la France qui accueille certaines de ces familles. En Drôme-Ardèche, l'association Une Main pour Demain œuvre pour cette fraternité. Les Ukrainiens se battent avec héroïsme pour défendre leur liberté et une vision de l'égalité entre les peuples que nous partageons. Les combats du peuple ukrainien sont aussi les nôtres. Pour découvrir Une Main pour Demain, nous avons invité Anna Dopira, vice-présidente de l'association, elle est franco-ukrainienne. Frédéric Fichet, le trésorier et membre fondateur. Françoise Estival, institutrice à la retraite, fondatrice du FLE, faciliter le langage aux enfants, il y a plus de 20 ans. Nadia Guettari, directrice de l'intergroupe Marcel Pagnol. Elle sera en charge de la communication avec les artistes pendant le festival du 28 mai prochain. Miroslava Tsipka, violoniste ukrainienne, qui est fondatrice du quartet Asturia Girls et qui justement interprète le générique de cette émission. Lisa Izvekova, elle est bénévole de l'association et elle accompagne les personnes ukrainiennes lors de leur entretien d'embauche. Elle est bilingue, français et ukrainien. Et Francis Fougeirol, qui représente les familles accueillantes. Dans un premier temps, Frédéric Fichet, le trésorier et membre fondateur de l'association, nous dit dans quelles circonstances ils ont créé Une Main pour Demain.
Je dirais qu'au lendemain de la guerre, il y a eu bon nombre d'initiatives. Au lendemain du début de la guerre, pardon. Et il y a eu beaucoup d'initiatives en France. Il y en a une, j'ai entendu parler d'une initiative à Montboucher qui a été initiée par Didier Marot, qui était l'envoi de camions de première nécessité. Donc nous nous sommes joints tout de suite à lui pour l'aider. Et c'est, on parlera peut-être pas trop de chiffres, mais c'est des dizaines de camions que nous avons acheminés vers l'Ukraine via la Pologne. Et puis après, tout de suite est venue l'idée de créer une association qui a vu vraiment le jour de façon officielle le 12 avril. Donc le but premier, c'était vraiment l'aide d'urgence. Et le deuxième but de l'association, c'est l'intégration. Et pourquoi Une Main pour Demain? Parce qu'on savait que tous ces gens déplacés d'Ukraine arriveraient en masse, alors même s'il y en a moins en France qu'en Pologne ou d'autres pays, mais qu'il fallait s'occuper d'eux et qu'un jour ils repartiront. Il y a eu et il y a encore un élan de solidarité impressionnant en France, mais comme toute chose, les choses se lassent et l'actualité en pousse une autre. C'était important dans cette association d'accompagner les déplacés aujourd'hui pour les intégrer et demain pour les intégrer pleinement à la société française et éventuellement les accompagner sur leur retour. Majoritairement des mamans avec des enfants et quelques personnes âgées, très très peu d'hommes qui ont moins de 60 ans, parce qu'ils sont retenus par leur pays, normal, pour être mobilisables, pas forcément tous défendre, mais pour être mobilisables. Donc beaucoup de mamans avec enfants. La communauté qui a été ramenée ici, elle a été guidée par Anna, qui en connaissait une partie, et tout de suite on s'est mis à les recevoir. Alors c'était un petit peu, je dirais, quasiment au lendemain de la guerre, je suis moi-même allé à la frontière en chercher bon nombre. Quasiment une semaine après le déclenchement de la guerre, on a eu pas mal de personnes qui sont arrivées. Donc c'était rigolo parce qu'on les recevait chez nous la première nuit. Donc pendant trois semaines, on était entre 15 et 20 personnes dans la maison. Le temps de les guider vers les familles accueillantes comme la famille de Francis. Donc ça a été très vite et ça, le nombre le plus important de personnes, c'était dans les trois semaines qui ont précédé la guerre. Et puis il en arrive de moins en moins, mais il en est arrivé au fil des semaines après.
Anna Dopira, vous êtes franco-ukrainienne. Comment vous vous êtes impliquée, et vous êtes aussi fondatrice de cette association, comment vous êtes émotionnellement impliquée?
D'abord, bonjour à tous, à toutes et à tous. Moi, avant de la guerre, j'ai vécu pour deux pays, pour l'Ukraine et pour la France. J'ai fait mes affaires entre deux pays et en fait, nous avons voyagé beaucoup, même malgré le Covid. Et bien sûr, avec le début de la guerre, nous sommes installés ici avec les enfants. Et le jour, je me souviens très bien, le jour quand la guerre elle a commencé, c'était quelque chose de très hallucinant pour nous. On ne pouvait pas dormir, on ne pouvait pas manger. Émotionnellement, c'était très très dur. On a regardé des nouvelles, on a parlé avec nos amis qui restaient en Ukraine pour savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Il y avait des bombardements partout. Mes parents qui étaient... mon père, il était à Kiev. Et c'était très difficile de même convaincre les gens pour sortir.
Se mettre à l'abri, quoi.
Pour se mettre à l'abri. Les gens, ils n'ont pu croire avoir la guerre de la grande échelle en Ukraine. Bien sûr, la guerre, elle a commencé en 2014, mais...
Oui, elle, en 2014, elle était localisée dans l'Est, et puis en Ukraine.
Et la Crimée. Tout à fait, oui. Si on pense avoir la guerre à grande échelle dans le XXIe siècle, c'est quelque chose qui est choquant pour nous. On était sous choc et en fait, les actions que nous avons commencé à faire, c'était les actions qui nous permettent de sortir de la situation de dépression. On voulait réagir tout de suite. Et moi, je me suis trouvée en France. J'ai trouvé les gens qui étaient formidables autour de moi. J'ai trouvé les partenaires, les Français, qui ont fait des business, des affaires ici. Mon compagnon, il est patron de Gebel. Et en fait, ça a aidé beaucoup pour faire réagir le réseau des affaires ici, à Montboucher, autour. Il y avait beaucoup de solidarité des gens qui voulaient aider. Et avec Didier Marot et Fabrice Abraham qui a vendé, nous avons commencé à faire des actions, nous avons créé des points de collecte pour envoyer des camions en Ukraine. Après, les amis qui m'ont contacté, il était sous choc, il ne savait pas qu'est-ce qu'il doit faire, est-ce qu'ils peuvent partir ou non. Donc on a amené beaucoup d'aide psychologique aussi, nous avons parlé beaucoup pour les rassurer qu'ici on peut trouver les familles d'accueil.
C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce que je comprends, vous avez fait un travail de communication pour expliquer aux familles qui avaient besoin d'être accueillies ici qu'on n'allait pas les laisser dans le désert, et tout était préparé, les réseaux qui existent pour certains dans d'autres réseaux associatifs, c'est important en France. C'est ça, ce travail de communication que vous avez fait ?
C'est le travail de communication. Même les gens, quand ils étaient en train de sortir leur pays, en fait, il y avait bombardements, il y avait des chars, et même pour trouver les abris en Ukraine, vous voyez, par exemple, s'il y a mes amis qui partent de Kiev, il faut trouver les abris un peu partout. Il y avait aussi grande solidarité en Ukraine. Et les gens, quand ils sont sous choc, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire.
On a bien sûr coordonné avec la grande solidarité des gens ici, des locaux, l'arrivée des réfugiés ukrainiens. On a coordonné aussi beaucoup d'actions en Ukraine même, de par notre réseau ukrainien, pour que les gens, certains déplacés de Kiev, se déplacent vers Lviv. On a fait aussi beaucoup de coordination à l'intérieur du pays,
avec des associations, avec des
organisations étatiques, même en Ukraine. Et au téléphone, on était constamment en train aussi d'essayer d'aider. On aidait beaucoup les déplacés à l'intérieur du pays, mais aussi à l'extérieur.
Les familles qui arrivaient ici, elles étaient dans quel état psychologique ?
Elles ont pleuré, elles ont été dans les situations psychologiquement très très difficiles. Et elles ne savaient pas qu'est-ce qu'elles doivent faire. comment ils peuvent continuer leur vie. Et ils sont, en fait, ils sont réveillés un jour avec avec le sac à dos. Ils sont partis. Ils sont partis comme ça d'Ukraine. Il y a aussi, il y avait la barrière de la langue. Ça existe toujours. Quand tu changes le pays, la culture, il y a beaucoup de choses qui sont différentes.
Même si ça se ressemble, tout est différent.
Mmh. Ouais, ouais.
Francis Fougérol, vous êtes faites partie d'une famille qui accueille, entre autres, vous accueillez Miroslava, qu'on va écouter tout à l'heure. Comment, en famille, je pense que ça se passe qu'en famille, il n'y a pas que le père de famille qui décide, comment la famille décide d'accueillir des réfugiés?
Alors, au point de vue familial, on a un peu l'habitude, moi je suis d'une famille nombreuse qui navigue un peu dans le milieu associatif. On a fait la connaissance d'abord de Anna Dopira parce que personnellement j'ai représenté un peu le Lions Club auprès de l'association pour voir comment on pouvait les aider ici en leur fournissant des lits, des matelas pour des appartements qui étaient vides, des frigos, des vélos. On a organisé avec le club deux concerts pour l'Ukraine où on a été directement au contact donc, de ces populations. Et puis, chose un peu particulière, mon frère Bernard, que certains connaissent à Diolfi, travaille dans le milieu de la musique. Et quand il a su que Miroslava était une grande violoncelliste, il a souhaité la rencontrer et enregistrer d'abord un petit morceau de musique. Et puis finalement, mon frère a une compagne en Suisse, donc on s'est arrangé pour que son appartement soit disponible pour la famille de Miroslava, qui était enceinte de sa petite fille, et avec sa maman. Donc aujourd'hui, elles sont toutes les trois dans la maison où moi j'habite, mais moi j'habite un appartement en dessous, et elles sont au-dessus.
D'accord.
Je pense que tout se passe très très bien, parce qu'on a affaire à des gens formidables. Voilà, donc c'est tout à fait normal de les aider au maximum quand on peut.
Il y a combien de familles qui accueillent dans la région à Montboucher et autour de Montboucher?
Je ne peux pas dire le chiffre exact. Par contre, je peux dire que dans notre communauté, il y a 205 personnes qui sont déplacées à cause de la guerre.
Qui vivent ici, qui vivent dans cette région.
Qui vivent à Montélémar, autour de Montélémar aussi. Il y a certains qui sont encore accueillis par les familles d'accueil, mais ils commencent aussi de s'intégrer en France. Ils commencent de travailler. Il y a certains qui ont eu l'accès au logement social avec Diaconat Protestant. Donc, ils commencent d'avoir la vie normale.
On est quasiment sur la moitié aujourd'hui des déplacés qui se logent par eux-mêmes. Du fait de l'intégration, c'est aussi le but de l'association, c'est de les aider à s'intégrer et à trouver leur propre logement, donc le travail et puis après le logement.
Alors Lisa, justement, quand vous êtes arrivée, et Miroslava aussi, quels ont été vos premiers sentiments, dans quel état psychologique vous étiez?
Bonjour tout le monde. Je me rappelle que je suis arrivée en France l'année dernière, c'était le 7 mai, et je me rappelle que j'étais vraiment très perdue. Pour moi, c'était un tout petit peu compliqué de changer le pays, de laisser ma famille là-bas, en Ukraine, à Kiev, et de décider d'aller en pays étranger seul.
Et l'accueil ici, comment ça s'est passé, le premier contact avec tous ces gens, avec des cœurs énormes?
Oui, mais je me rappelle que c'était formidable. Parce que tout de suite, j'ai commencé à habiter avec ma famille d'accueil française. Et c'est pour ça, pour moi, c'était un peu plus facile de s'intégrer, parce que tout de suite, j'ai plongé dans la culture, dans la coutume française.
Déjà, vous parliez le français?
Non.
Ah non, vous avez appris
l'anglais? Exactement, oui. J'ai commencé à apprendre au français.
En un an?
Anglais, oui, j'ai parlé anglais avant.
Mais l'anglais, en un an, vous avez appris à parler le français?
Ah oui, c'est ça. Oui, avec ma famille d'accueil. Et c'est pour ça que je suis très reconnaissante à eux. Parce que, juste à grâce de ma famille, j'ai commencé à parler le français assez couramment.
Très bien. Et vous, Miroslava? Alors,
bonjour à tous.
Bonjour.
Première chose, je ne parle pas français bien comme oui, Lisa.
Pas grave.
Oui.
On comprend parfaitement ce que vous dites.
Oui, peut-être Francis m'aider.
Oui, Francis vous aidera, ou sinon Lisa traduira quelques mots en
oui.
ukrainien.
Pour moi, c'était très dur quand la guerre commençait, parce que j'étais enceinte, cinquième mois, oui. Et je suis partie à Kiev après 4 jours, quand la guerre commençait.
4 jours après le début de la guerre.
Oui, après le début de la guerre. Notre voyage était 4 jours aussi. Et mon mari, il est resté à Ukraine parce que ce n'est pas possible pour lui partir à Ukraine. Et autre personne m'a aidé pour partir à Pologne.
Et alors justement, Francis disait que vous étiez avec votre maman.
Non. Ma maman partie après. Après, je restais à Pologne chez mon ami, mon ami. Et je ne savais pas qu'est-ce que je peux faire. Parce que je ne savais pas.
Et alors, comment vous êtes arrivée ici?
Didier Marou m'a écrit un message. J'ai travaillé avec il avant la guerre, avec mon quartet, parce qu'il fait beaucoup d'événements.
Événements.
Il proposait pour moi aider. Il proposait en France. Je voudrais réfléchir, mais Anna de Pira m'appelle et m'a dit pas réfléchir.
Et vous arrivez ici et le contact avec la famille de Francis
première famille, c'était famille Michel Goudon et Edwin Lafitte. J'habite il y a depuis un an. Après, j'ai rencontré Bernard Fougerol et j'habite maintenant avec.
Quand on vit chez des personnes, chez eux, comment se passe le quotidien?
Як це відбувалося, да?
Як це? Як твоє життя у Франції повсякденне?
Première chose, c'est tout le monde ici à Montélimar, à Montboucher, cette région très gentille, beaucoup aidé, support,
soutien psychologique.
J'ai beaucoup sourire, mais
oui.
Sourire avec il.
Avec eux, oui.
Oui. Il fait tout pour mon bon psychologique.
État. Pour vous soutenir. Oui. Un gros soutien psychologique.
Oui.
Ok, très bien.
Je peux ajouter? Oui. Je me souviens les photos de Miroslava. En fait, quand on cherche la famille d'accueil, il faut aussi assurer la famille d'accueil. Il faut envoyer les photos, les papiers, il faut expliquer c'est qui la personne qui vient. Et j'ai demandé les photos de Miroslava. Elle m'a envoyé les photos d'elle avec les instruments musicaux et avec les valises énormes parce qu'elle a voyagé enceinte avec toutes les valises. Et on a trouvé une solution pour la faire venir ici. Elle était très perdue. Et elle savait pas qu'est-ce qu'elle va faire ici. C'est très compliqué. Et le rôle des soutiens psychologiques est très très important. Et parfois, comme les gens, ils ont hésité beaucoup. Il faut les dire qu'est-ce qu'il faut faire. Et il faut les un peu diriger.
Francis. Quand on accueille des familles, c'est quasiment une famille augmentée, là.
Alors, dans mon cas, c'est un peu différent parce qu'on est dans la même maison et où il y a 2 appartements, donc elles sont entièrement autonomes, si ce n'est qu'on se voit 2 ou 3 fois par jour. Et comme elles n'avaient pas de voiture jusqu'il y a 15 jours, moi, je les ai amenées faire des courses ou visiter un petit peu la région. Évidemment, ça se passe très, très bien.
Donc voilà, avec l'association, bien entendu, j'ai dit que la première vocation, c'était l'urgence. Et bien entendu, accompagner, alors je vous disais, toutes les familles arrivaient chez nous au moins une nuit ou 2 nuits. Et puis après, elles étaient dirigées vers les familles accueillantes. Et on les a suivies pendant quelques mois, voilà, pour qu'ils arrivent d'ailleurs à communiquer. On avait souvent, comme je vous disais, la majorité des femmes et des enfants qui arrivaient en état de choc, des familles qui voulaient aider, et forcément des façons, des styles de vie différents. Donc il a fallu aider à la fois, bien entendu, les gens, les Ukrainiens déplacés, mais aussi les familles accueillantes, pour qu'ils arrivent à communiquer et les aider à les prendre en charge pour toutes les démarches.
Oui, parce qu'on peut avoir un cœur gros comme le stade Vélodrome, et puis pas savoir faire, quoi.
Oui, c'était pas facile. Alors, on va dire que la barrière de la langue, la plupart parlent anglais. Et puis aujourd'hui, avec les outils, les smartphones, ils sont arrivés à communiquer, mais c'était surtout sur les rythmes de vie, les aider à scolariser les enfants, et à faire toutes les démarches, prendre un forfait téléphonique, administratif, enfin, j'en passe, et des meilleurs, mais c'était pas facile de communiquer, et puis les aider à s'ouvrir sur le monde français, et puis ils étaient quand même scotchés tout le temps à leur téléphone vers leurs proches restés en Ukraine et pour avoir des nouvelles. Donc ça, c'était un accompagnement qui a duré quelques mois, qui était, je dois le dire, qui était pas facile pour les déplacés, pas facile pour les familles accueillantes. Il a fallu vraiment les accompagner.
Si vous voulez en faire une première pause musicale, le chant des partisans interprété par Camilla Jordana.
Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs, à vos armes et vos couteaux, tirez vite. Ohé, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur nos routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté.
Camilla Jordana sur Radio La à Dieulfi 106.6 ou sur internet radiola.media. Alors, les enfants qui arrivent en France, de toute nationalité, sont scolarisés. Et je vous propose d'écouter une interview réalisée auprès de Françoise Estival. C'est une institutrice à la retraite, une institutrice dite UPE2A. Et elle nous explique comment on accueille dans l'école française les enfants venus d'ailleurs.
Donc dès qu'un enfant arrive sur le territoire français avec sa famille, il doit immédiatement se faire inscrire sur son école de secteur. Il est intégré avec une classe ordinaire. En général, il est scolarisé dans la classe de son âge. Si cet enfant ne parle pas la langue française, il peut être aidé en complément par une enseignante spécialisée, donc qu'on appelle enseignante UPE2A, unité pédagogique pour élèves allophones arrivant, allophone étant un élève qui parle une autre langue que la langue française. Parfois, ce sont aussi des enfants qui n'ont pas été scolarisés, mais de toute façon, ils arrivent en France et sont scolarisés. S'ils n'ont pas eu une grande scolarisation dans leur pays, l'aide de l'enseignante spécialisée est d'autant plus importante et souvent insuffisante par rapport aux besoins de l'enfant et par rapport à la loi devrait lui donner entre 9h et 12h d'enseignement de français par semaine. C'est difficile et c'est quasiment jamais atteint. L'enseignante spécialisée accompagne l'enfant sur le temps scolaire pour l'aider à parler la langue et pour l'écrire. Et le reste du temps, l'enfant est dans sa classe et il essaye de capter tout ce qu'il peut sur les apprentissages scolaires, comme les autres élèves. Les écoles où il y a beaucoup d'élèves allophones, les enseignants sont plus facilement sensibilisés et savent mieux s'organiser et quoi faire. Dans les écoles où un élève allophone arrive alors qu'il est tout seul et que l'école n'est pas habituée à en accueillir, c'est plus compliqué. Et parfois, les enseignants sont assez désemparés pour répondre à cette demande et sont très demandeurs de l'aide justement de l'enseignant spécialisé qui va apporter non seulement son aide d'enseignement sur le temps d'intervention, mais qui va aussi accompagner les enseignants pour leur apporter des outils, pour aider aussi l'élève pendant le temps scolaire. Au collège, il y a une enseignante qu'on appelle FLE, comme français langue étrangère, qui est présente sur Montélimar, c'est le collège Europa. Les élèves du collège Europa bénéficient de l'enseignement de FLE de cette enseignante. Et les élèves qui arrivent sur d'autres collèges sont amenés à venir sur le collège Europa pour bénéficier de l'enseignement du français. Pareil pour le lycée. Et pour le lycée, il y a une enseignante au lycée des Catalans et au lycée Alembourn. Il y a quelques années en arrière, où j'étais l'enseignante spécialisée, qui s'est rendu compte des besoins importants qu'avait l'enfant qui était scolarisé dans cette classe ordinaire, avec Modette en tant qu'enseignante spécialisée, eh ben je me suis dit que si je faisais peut-être appel à des bénévoles, j'aurais une réponse et peut-être un complément d'aide pour ces enfants. Et c'est ce qui s'est passé et qui a été l'objet de la création de l'association qui s'appelle FLE, non pas comme français langue étrangère, mais comme faciliter le langage aux enfants, qui s'est développé chaque année et donc qui permet d'aider tous les élèves allophones de la ville de Montélimar en intervenant sur les écoles là où ils sont scolarisés, sur le temps périscolaire à partir de 16h30. Pour l'instant, l'association est concentrée sur l'école primaire. On voit vraiment la différence entre les élèves qui ont l'aide complémentaire de l'association.
Voilà, c'était Françoise Estival qui a fondé le FLE et qui est d'ailleurs toujours très impliquée dans cette association. Alors, je trouve que c'est un travail très intéressant pour les bénévoles. Je suis personnellement bénévole et je prends en général en charge un enfant. Là, il se trouve que c'est Slavomir, un jeune ukrainien, et j'ai fait faire les devoirs comme si je faisais faire les devoirs à mon petit-neveu ou à mon neveu. C'est en gros le rôle des accompagnateurs et des bénévoles FLE. Il y a un temps de jeu. Et je sais que s'il écoute Slavomir, il adore le Uno. Donc c'est un champion du monde. Très bien. Ukraine. C'est toujours très enrichissant de faire de rencontrer ces enfants au FLE. Depuis 20 ans, on a vu passer le monde entier aussi. Et une qui voit passer le monde entier dans ses locaux, peut-être pas tout de suite, mais celle qu'elle a remplacée, c'est Nadia Guettari. Nadia, vous êtes directrice de l'intergroupe Marcel Pagnol, qui a été créée il y a 25 ans, et cette association travaille avec des publics français ou des étrangers, migrants ou réfugiés, en situation d'illettrisme ou pour une mauvaise maîtrise de la langue française, voire un besoin de son apprentissage. Alors, comment vous travaillez au quotidien pour, parce que c'est assez vaste, hein. Je sais que vous recevez des personnes qui sont carrément illettrées, français ou ailleurs, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas lire et écrire. Il y en a d'autres qui ne savent pas le français, mais savent lire et écrire leur langue maternelle. Comment vous travaillez ?
Bonjour à toutes et à tous. Alors oui, alors notre façon de travailler, c'est qu'on reçoit les personnes, on a un échange avec eux. On a un échange avec ces personnes et ensuite on leur propose un positionnement pour évaluer justement leur niveau. Et en fonction de ce positionnement, cette personne intègre un groupe de niveau. Alors aujourd'hui, le public a quand même changé à Marcel Pagnol par rapport aux années précédentes. On a beaucoup moins d'illettrés, par exemple. On a une personne
illettrée. Vous avez tellement bien travaillé qu'il n'y en a plus. Non,
je ne sais pas. On a une personne illettrée donc, qui, elle, vient... Là, c'est du face-à-face. Vraiment, ce n'est pas des groupes, c'est vraiment face-à-face. Et après, c'est vraiment des groupes de personnes FLE pour la majorité. Ils ont étudié dans leur pays.
Alors, comment ça se passe et comment vous avez intégré ces nouveaux arrivants qui sont les Ukrainiens?
Alors, j'ai rencontré Anna Dopira et qui est arrivée. Et c'est vrai qu'il... Pour moi, j'ai vu une femme qui voulait déplacer des montagnes pour sa communauté, qui avait vraiment envie que sa communauté s'intègre et apprenne la langue. Pour elle, c'était primordial que l'intégration passe par la langue, ce qui est logique. Donc voilà, on a longuement discuté. Et à partir de là, elle m'a orienté les familles ukrainiennes. Voilà.
D'accord. Est-ce que l'intergroupe Marcel Pagnol fait partie d'un réseau d'associations où il y a le FLE français, c'était le langage de l'enfant, là vous venez d'en parler, mais est-ce qu'il y a d'autres structures?
Alors on est en lien avec plusieurs associations sans forcément être en inter, mais avec Une Main pour Demain, avec le CRI aussi, le Centre Ressources Illettrisme, le FLE, après avec l'IFRA aussi, c'est une plus grosse association, mais les personnes qui viennent chez nous vont faire des stages intensifs de langue à l'IFRA, puis reviennent. Donc, on a des échanges avec plusieurs associations.
D'accord, ok. Et il y a aussi le Colucci, le Centre Social Colucci
Oui, alors le Centre Social Colucci, on est en lien. Après, actuellement, on n'est pas vraiment sur le même public, mais oui, on va travailler ensemble, on va essayer de trouver... Alors, je ne sais pas s'il y a des Ukrainiens qui vont au Centre Social Colucci.
C'est peut-être pas la zone géographique, oui. Les quartiers où ils habitent, plus au centre-ville. Alors, comment vous voyez évoluer les populations différentes et comment s'intègrent ces différentes populations, parce que c'est la tour de Babel chez vous?
Oui, mais ça se passe très bien. Oui. C'est super. Donc, comment on les voit évoluer? Alors après, on essaye, on voit que toute personne, même quelqu'un, même les primo-arrivants d'Afghanistan, ils ont tous des objectifs en venant à Marcel Pagnol. Ils veulent apprendre la langue parce qu'ils veulent s'intégrer, ils veulent travailler, ils veulent pouvoir aider les enfants.
Ils ont des dénominateurs communs, quoi.
Voilà. Et après, on crée des groupes de niveau. Donc, c'est-à-dire, ça va de l'infra à 1, c'est vraiment les grands débutants qui, eux, n'ont pas été scolarisés du tout dans leur pays d'origine, jusqu'au B2 maintenant. Et on voit que tout, que ce soit le plus petit niveau ou les grands niveaux, ils ont tous des objectifs d'intégration, d'autonomie surtout, de vouloir être autonome dans leur vie.
Oui, parce que François Estival en parlait un petit peu, mais moi je le constate quand je vais au FLE, souvent les enfants sont l'interface, ils sont le traducteur familial des,
oui.
très, très souvent.
Oui.
Hein, c'est les enfants qui expliquent aux parents le monsieur,
voilà.
la
Lisa, oui, c'est, tout, vrai.
C'est assez touchant de voir ces aspects-là. Et vous, vous en avez profité du travail, vous fréquentez l'interview de Marcel Pagnol ou Miroslava, vous, Lisa?
Moi, oui, bien sûr, parce que je suis étudiante à Marcel Pagnol.
Oui. Ouais.
Et après, je vais passer déjà l'examen B1
ouais.
en Avignon dans quelques semaines.
B1, pense. Ça veut dire quoi?
Alors, elle va passer le DELF. Anna et Lisa sont inscrites. On a 7 apprenantes qui passent le DELF B1. Donc, c'est le niveau de référence B1 qui est, on va dire, comme pour nous, peut-être en première en anglais, le niveau qu'on devrait avoir, nous, français, en.
D'accord.
Au lycée en...
Savoir, je trouve que
voilà.
je lui donne tout de suite le B1 parce que
donc du coup elles vont passer l'examen à l'université d'Avignon jeudi toutes les deux et elles ont été préparées par l'intergroupe Marcel Pagnol.
C'est très bien. Alors justement vous avez, comment ça se passe vous aussi Anna, comment vous avez découvert justement cette tour de Babel où on parle toutes les langues mais on a le français en commun?
En fait moi j'étais acceptée à Marcel Pagnol exceptionnellement et je trouve que l'ambiance là-bas est très internationale. C'est bel échange avec les cultures. Je vois que les bénévoles là-bas, ils sont très engagés, ils veulent accompagner, ils demandent si ils expliquent la différence des mentalités. C'est aussi c'est important quand tu changes le pays, il faut bien comprendre les subtilités de la langue, il faut comprendre pourquoi on fait comme ça, on n'a pas fait comme ça, et, il y a toujours la différence. Et tout le monde est très très gentil là-bas, tout le monde veut qu'on réussisse, qu'on s'intègre le plus vite que possible, et c'est très important, il ne faut pas louper le moment quand tu apprends la langue. Si tu ne fais pas assez des efforts et tu juste parles avec les gens, tu ne peux pas améliorer ton niveau. Je connais pas mal de gens qui sont ici en France pendant 20 ans et ils peuvent communiquer, mais le niveau de la langue n'est pas assez élevé. Et je pense c'est pourquoi il faut qu'on réagisse tout de suite. Il faut qu'on apprenne la langue tout de suite avec les gens qui nous accompagnent, qui sont embauchés dans le cadre de l'association. On les demande aussi suivi les cours de français, soit avec Marcel Pagnol, soit avec Pôle emploi à l'EFRA, soit même en ligne. Mais c'est le plus important qu'ils apprennent la langue, parce que l'apprentissage de la langue permet d'ouvrir toutes les portes. Et les gens qui sont déplacés ici, c'est les gens qui quand même qui sont diplômés souvent en Ukraine. Peut-être 90% des gens qui sont déplacés en France, c'est les gens avec diplôme. C'est-à-dire qu'ils sont assez exigeantes avec eux-mêmes. Ils veulent parler, ils veulent communiquer. Parce que si on ne peut pas communiquer, on ne peut pas aller chez docteur, chez médecin. On ne peut pas faire les démarches administratives. On ne peut pas s'intégrer du tout. Donc la langue, c'est la priorité numéro un pour l'association. On remercie Marcel Pagnol pour accueillir 70 personnes à peu près maintenant.
Lisa, développez un peu ce que vous faites là-bas, parce qu'en un an, parler le français comme vous le faites,
ah oui, c'est exceptionnel.
C'est extraordinaire.
Ouais, merci beaucoup pour votre compliment. Non, mais vraiment, merci. Moi, je suis absolument d'accord avec Anna. Je sais personnellement que c'est très compliqué à s'intégrer si tu ne parles pas la langue. Et du coup, c'est la première chose à faire dans le pays étranger. Et moi, j'adore le groupe Marcel Pagnol. Comme j'ai déjà dit, je suis étudiante là-bas. J'adore l'ambiance, j'adore tous les professeurs parce que je comprends qu'ils sont vraiment là pour t'aider. Après, aussi, la chose qui est vraiment compliquée pour les débutants, c'est une barrière de la langue. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à parler juste parce que tu es timide. Et je pense que là, il faut vraiment accepter que peut-être tu es étranger, tu ne parles pas la langue, pas encore. Mais ça, c'est pas grave. Et il faut chercher les solutions à parler avec les Français, vraiment. Et il ne faut pas être timide à cause de ça.
Et vous, Miroslava, vous n'allez pas à Marcel Pagnol?
Non.
C'est ma fille.
Parce que j'ai toujours avec ma fille. Oui. Et c'est très difficile. Mon professeur de français, c'est Francis Fougerol, maintenant. Ah oui. Il est toujours correct, mon français. Oui, j'espère quand j'ai... Quand je suis à Bilschwilne, quand j'ai... Oui. Oui, oui, et peut-être j'ai commencé Marcel Pagnol, je ne sais pas.
Alors, est-ce que, en quelques mots, nous parler du morceau Palladio qui accueille sur votre chaîne Facebook?
Palladio, c'est morceau, c'est notre interprétation à cette musique parce que c'est composé. Un compositeur d'Angleterre,
anglais,
Carl Jenkins, c'est pour orchestre, et beaucoup de musiciens font interprétation de ce morceau.
D'accord. Et le morceau qu'on va écouter, c'est Miramia.
Cet morceau, j'ai composé tout seul. C'est mon musique. C'est mon première.
C'est votre première?
Oui, musique.
Ah, oui.
Quelle j'ai faite.
Quelle j'ai faite.
Fait, c'est très bien.
Oui.
Très bien, d'accord, et très bien.
Oui, merci. Quelle j'ai faite. 2019.
Maintenant, nous allons écouter un poème d'une poétesse ukrainienne qui s'appelle Leïsa Ukrainka et qui a été écrit il y a quelques années et qui est d'actualité. Il a été récité par Catherine Deneuve, très engagée pour la cause ukrainienne, lors du festival cette année. Donc Miroslava va commencer en ukrainien et Anna le fera en français pour la bonne compréhension de tous.
Ni долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Надія вернутися ще раз на Вкраїну, поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на синій Дніпро. Там жити чи вмерти, мені все одно. Поглянути ще раз на степ, могилки, востаннє згадати палки гадки.
Je n'ai plus ni bonheur, ni liberté. Une seule espérance m'est restée, revenir un jour dans ma belle Ukraine, revoir une fois ma terre lointaine. Contempler encore le Dnipro si bleu, et vivre ou mourir importe bien peu. Revoir une fois les terres, les plaines, et brûler au feu des pensées anciennes. C'était Lesia Ukrainka. Il est né dans le 19e siècle. C'est une poétesse qui, en fait, qui était éloignée de sa terre. C'est pourquoi elle a écrit cette poème. Et elle pouvait parler 12 langues. Donc c'était vraiment quelqu'un qui est extraordinaire pour notre littérature et l'histoire.
Donc alors, le 28 mai, c'est un dimanche, ce dimanche prochain, le deuxième festival franco-ukrainien, comment ça va se passer cette année? Alors Frédéric.
Eh bien, ce sera la deuxième édition. On va dire que l'objectif principal de cette manifestation, c'est vraiment la découverte de la culture et le mélange des cultures franco-ukrainiennes au travers de tout un tas d'activités que Anna et Nadia vont nous décrire. Mais c'est aussi la rencontre de différentes personnes. On parlait de FLE, on parlait de langue française, c'est le moment d'échanger avec les familles d'accueil, d'échanger entre français et ukrainien. Je crois même qu'il y aura un atelier d'apprentissage de langue ukrainienne. C'est un moment de partage. Bien entendu, il y a une petite récolte de fonds pour le fonctionnement de l'association, mais ce n'est pas le but premier. Le but premier, c'est vraiment de faire découvrir la culture ukrainienne et de la mélanger à la culture française.
Mais Miroslava, j'ai vu sur le programme que vous avez joué avec un groupe de danse local, c'est ça?
Oui, oui. J'ai rencontré cette danseuse, c'est Aurélie. Première fois, c'était la première franco-ukrainienne festival. Et c'était spontané, idée. Ça s'est passé très bien. J'ai joué musique, différentes musiques, différents styles. Mm-hmm. Moderne musique, aussi classique musique et aussi ukrainienne. J'ai choisi pour le festival. Oui, ce sera intéressant. Je prends différentes musiques. Et pour moi, je suis très contente de jouer ukrainienne musique parce que l'ukrainienne culture ukrainienne est très importante.
Pour vous, c'est important de jouer de la musique ukrainienne et de faire découvrir la musique ukrainienne.
Oui. D'accord. Et j'ai joué ukrainienne hymne d'Ukraine et aussi autre pas officiel hymne d'Ukraine, c'est Oi Uluzi, Червона Калина. C'est très populaire maintenant, mélodie. Tous les artistes d'Ukraine chantent, jouent sa musique. Aussi, un très connu ukrainien, artiste ukrainien Boombox
qui défend l'Ukraine et qui a chanté cette chanson sur la place centrale.
Il est avec automate,
fusil,
avec un gun, une mitraillette.
Oui,
une arme. Et habillé en tenue militaire.
Il chantait. Chanter dans l'internet sa mélodie après Pink Floyd faire avec sa musique interprétation.
Au-delà, il y aura tout un tas de prestations proposées, bien entendu de la restauration, mais surtout de l'artisanat ukrainien, un peu français, porté à la fois par des artisans ukrainiens, mais aussi avec l'aide, par exemple, Francis, qui aime ici monter des ateliers avec des Ukrainiens. Il y aura des choses qui seront proposées. Et la journée sera animée par tout un tas de défilés de musique. Anna peut nous présenter peut-être en quelques mots.
Oui, bien sûr. En fait, c'est la journée d'amitié, de solidarité. Il y aura beaucoup de Français, beaucoup des Ukrainiens qui ont créé les liens d'amitié déjà. Il y aura des patrons, des entreprises qui ont embauché les Ukrainiens. Donc, ça va être vraiment un échange pour nous. On a réfléchi, on voulait faire la journée remplie avec la musique à partir des 10h du matin jusqu'à 10h du soir pour avoir la musique différente. Donc ça va être les Français et les Ukrainiens qui vont intervenir. Après, il y aura les danses ukrainiennes, il y aura des PJ, défilés, bien sûr. On a pensé, l'année dernière, c'était quelque chose d'important. Les gens, ils voulaient voir les robes nationales, ils voulaient avoir la possibilité de les acheter. Cette année, nous avons invité les Ukrainiens, les créatrices des robes, même en Ukraine. Donc, il y aura des gens qui vont faire 2 jours de trajet en bus pour venir et pour présenter les collections des vêtements nationaux. Et bien sûr, la comité Miss Drôme Provençal, qui est notre partenaire, qui veut. On fait ce festival une fois par an. Et c'est quelque chose qui permet, réunit tout le monde.
Mais l'idée, c'est vraiment de faire le lien entre le monde de l'entreprise français et le monde de l'entreprise ukrainien. Ils amènent des compétences que nous n'avons pas. Je pense notamment un petit peu on a découvert l'Ukraine quand même au moment de la guerre. On a découvert que c'était le grenier de l'Europe. On l'a vraiment pris de pleine face. Et aussi dans ce qu'on appelle les IT, les nouvelles technologies, ils sont très très en avance. Et on a la chance d'avoir pas mal d'entrepreneurs dans ce monde-là. Et c'est aussi une communauté, un pays très très artistique. On parlait de poétesse. On parle de musique avec Miroslava. Mais c'est un pays où il y a beaucoup de créateurs, on parle de mode, et on ne connaissait pas l'Ukraine sous cet angle-là. Il y a beaucoup d'artistes en Ukraine.
Merci à tous et toutes nos invités pour cette émission La Belle Sézonde. Miroslava Tsipka, Nadia Guettari, Lisa Izvekova, Françoise Estival, Francis Fougérol, Frédéric Fichet, et un merci spécial à Anna Dopira, d'avoir fait la coordination de ce moment de radio libre et fraternel. Vous pouvez réécouter cette émission et toutes les réalisations de Radiola sur radiola.media. Amitié fraternelle, à vous, citoyennes et citoyens de la Terre. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and I vanished. I've changed my name so often, lost my wife and children. Pour qui le savait, effacer mon passage. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were 3 of us this morning. I'm the only one this evening. But I will go on. These frontiers are my prison.
c'est la France entière. Un verre dans un grenier, où la nuit nous a cachés, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise.
From these shadows, I mean, these very shadows.